Nous sommes en compagnie du jeune compositeur Aurélien Dumont, qui, on l'a dit tout à l'heure, a fait ses classes à Lille, ça c'est quand même important de le rappeler, puis à la Musikhochschule de Cologne, au CNSM de Paris, Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, pour ceux qui ne le sauraient pas, puis à l'IRCAM. Il est compositeur découverte de l'édition 2012 du festival Ars Musica en Belgique et notamment à Bruxelles. Et il commence à avoir déjà un certain nombre de pièces à son catalogue, dont des commandes d'État. Je vous signale évidemment que les trois pauses musicales de cette émission seront signées par les musiques d'Aurélien Dumont. Alors Aurélien Dumont, pourquoi décide-t-on un jour de devenir compositeur? C'est pas un choix absolument évident aujourd'hui.
Non, je crois que ça fait la deuxième fois que vous me posez la question et à chaque fois je suis toujours aussi embêté par cette
question. C'est normal, c'est vrai que c'est la deuxième fois que vous venez. Vous étiez venu pour Villa des Morts avec Dominique Hélène.
C'est ça, oui, il y avait 5 ans, je pense.
Voilà, ça a fait du chemin depuis.
Oui, enfin, je pense que la raison, elle est un peu la même. C'est un choc, en fait. C'est ce que je vous avais répondu, je pense, la première fois. C'est-à-dire que j'avais commencé des études de médecine et parallèlement, en tant qu'amateur, je pratiquais le hautbois. Et au moment de faire mes études de médecine, je me suis rendu compte que la musique me manquait terriblement. Donc j'ai fait un peu le chemin inverse et j'ai voulu m'intéresser à la musique. Et je suis rentré à la faculté de musicologie de Lille. Et à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, en tout cas, c'était extrêmement orienté sur la musique contemporaine.
Ça l'est toujours.
Siècle. Ça l'est toujours. Mm-hmm. Je m'en réjouis.
Avec Vincent Tiffon aux manettes, ça l'est toujours.
Oui. Ah, Vincent, oui, tout à fait. Et du coup, c'est vrai que dès la première année, on met vraiment les pieds dans le plat. Et ma première rencontre, ça a été un choc avec Webern, je l'avais déjà dit. Une musique qui me fascinait parce que je la comprenais pas, donc j'étais vraiment partagé entre deux sentiments et à partir de ce choc là j'ai vraiment voulu il y a une espèce de révélation un peu et j'ai voulu aussi écrire moi-même ma propre musique.
Vous vous êtes dit que finalement il y avait quand même des choses à faire après Webern.
Ah oui, je pense, oui.
En tout cas, c'est un parcours original parce que de l'art-thérapie à la musicologie et à la composition, c'est assez rare comme parcours. Pourquoi vous avez choisi finalement d'écrire de la musique savante alors que la musique populaire aujourd'hui est plus facile d'accès? Parce que finalement, derrière cette question, c'est à quel public vous vous adressez? Pourquoi écrire cette musique qui, on l'a entendu, est quand même extrêmement agréable à écouter, hein. C'est de la musique savante, mais ça s'écoute. Mais du coup, vous êtes quand même avec l'étiquette compositeur de musique contemporaine.
Oui, tout à fait. Je pense que la volonté d'écrire, alors là, je vais vous dire franchement, je pense pas du tout au public pour le coup.
Ben voilà qui est intéressant.
Je suis mon premier auditeur, mon premier critique, mm-hmm. et j'écris pour moi. Enfin, du coup, les moyens, en tout cas, qui me permettaient de construire quelque chose, de pouvoir le conceptualiser, le visualiser intellectuellement, c'était par le biais de l'écriture. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette voie-là, la voie de la musique dite savante, parce qu'il y a un rapport à l'écrit, même si pour moi c'est pas une fin en soi. Ce qui est important, c'est vraiment ce qu'on entend. Mais l'écriture permet justement d'avoir une visualisation sur tout le processus heuristique, sur la conceptualisation de la pièce. Et je crois que c'est pour ça que j'ai choisi ce mode-là.
À propos d'écriture et de conception, vous venez donc de terminer un cursus à l'IRCAM. Qu'avez-vous appris à l'IRCAM, justement, en termes d'écriture? Parce que là, ça change totalement.
Oui, donc là, on peut vraiment parler d'écriture électronique, enfin d'écriture même informatique. On est dans la programmation, donc le cursus d'informatique musicale. En gros, pendant 6 mois, on passe notre vie derrière des ordinateurs. Donc, on ne parle pas toujours vraiment musique, mais on essaie d'appréhender certains logiciels qui permettent finalement d'essayer de transcrire notre pensée musicale sous forme de données. Donc on est extrêmement dans une pensée formalisatrice des choses, essayer de dialoguer avec l'ordinateur pour avoir des résultats ou des réponses qui répondent à nos préoccupations.
Donc ça a été extrêmement formateur, puisque vous êtes quand même un compositeur de musique mixte.
Quand j'ai la possibilité d'avoir l'électronique, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, effectivement. Pas que, parce que j'ai pas mal de pièces également acoustiques, mais dès que j'ai la possibilité d'utiliser l'électronique, je ne m'en prive pas.
La vie sans composer, c'est pas imaginable?
Non.
Bien sûr, finalement. Quelles sont vos filiations musicales?
Mes filiations musicales, je pense qu'il y a des compositeurs qui m'ont beaucoup touché, qui ont forcément laissé leur empreinte sur ma musique. Bon, déjà, il y a mon professeur au conservatoire, Gérard Pesson, évidemment. La rencontre avec Salvatore Sciarrino, qui a été pour moi également décisive. Jonathan Harvey également. Oui, c'est principalement, ces trois personnes, je pense. Oui.
En tout cas, ça fait des bonnes références. Vous avez aussi des filiations littéraires qui sont importantes pour vous.
Oui, tout à fait. Donc ça fait plusieurs années, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, que je travaille avec l'écrivain et le poète Dominique Kellen, qui vit à Lille.
Voilà.
On est sur énormément de projets ensemble et c'est assez intéressant parce que avec Dominique, il y a eu vraiment une rencontre qui s'est, bon, qui s'est réalisée un peu comme ça, de manière informelle. Et,
comme toutes les rencontres.
Et en fait, j'ai vraiment trouvé dans sa poésie une musicalité qui me touchait profondément. Et voilà. Et donc, on est en train vraiment de construire quelque chose ensemble qui est, que je trouve, assez intéressant. Parce que même si tous les projets sont différents et singuliers, mais il reste que c'est lui qui l'écrit. Et qu'effectivement, quand je lui demande d'écrire un texte, ça rentre tout de suite en résonance avec. Et je vois tout de suite la musique que je pourrais faire. Donc on travaille vraiment ensemble. Enfin voilà, c'est vraiment à chaque fois, il me sert des caviars. Enfin,
c'est un binôme en fait.
C'est un vrai binôme, mm-hmm. Tout à fait.
Alors si c'est la musique des mots qui vous intéresse, c'est aussi les mots de Dickinson, de Borges, etc. Qui vous...
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pas que les mots, par exemple, l'influence de Borges, c'est sur une pièce qui a été créée à Royaumont il y a 3 ans. C'était plus un petit conte, voilà, où finalement, c'est pas le poids des mots qui est important, mais c'est plus l'histoire qui va raconter. Donc, c'est ça qui est intéressant avec l'univers littéraire, c'est qu'on peut, on peut véritablement hiérarchiser le discours au niveau du sens, au niveau du mot, de la musique, de la sonorité, mais également des propos beaucoup plus éloignés, comme tout simplement la narration et ce que ça peut nous évoquer.
Et du coup, ça vous amène à écrire pour la voix.
Oui.
Vous êtes un compositeur exclusivement focalisé sur la matière vocale ou tout vous intéresse ?
Non. Il n'y a pas de... d'exclusivité à ce niveau-là.
Mais quand même, l'opéra, c'est quelque chose qui...
Oui, c'était une expérience que j'ai voulu réaliser donc, il y a 5 ans, qui m'a... Voilà, donc j'ai fait une première tentative. Et, c'était pour moi une expérience vraiment intéressante. Ce qui était vraiment formidable, c'était notamment le travail avec le metteur en scène Éric Durand. Et le fait de... Voilà, avec Dominique, on a travaillé pendant presque 2 ans sur le livret, sur la musique, enfin en tout cas sur la musique, mais comme je disais tout à l'heure, sur l'écriture. Mmh. Et de voir les personnages... tout d'un coup être incarné par des acteurs, des chanteurs. Enfin ça il y a toujours une dimension un peu bouleversante à ce moment-là. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup revivre, effectivement.
Bah, vous allez peut-être le refaire avec votre projet, avec une chanteuse no.
Oui, c'est un projet un peu particulier, effectivement. Donc un opéra de chambre avec une chanteuse no. Je suis extrêmement influencé par la culture japonaise. J'y passe à peu près la moitié de ma vie au Japon. Et en fait, voilà, on m'avait proposé, donc ça a été vraiment une demande en fait, hein, d'un ensemble Linéa qui est à Strasbourg et qui m'a dit: Aurélien, est-ce que ça t'intéresserait de créer une pièce pour ensemble électronique et puis une chanteuse no? Donc
c'est pas le truc qui se refuse.
C'est pas le truc qui se refuse et puis c'est quelque chose d'extrêmement singulier. Donc voilà, et je me souviens, j'étais à Tokyo notamment, c'était en juillet dernier. Et j'étais en train de lire, des choses, notamment sur les yokai, hein, qui sont les petits êtres, en tout cas les petites mythologiques liées aux kami, aux divinités shintoïstes du Japon. Et il y avait un texte qui m'intéressait beaucoup, quelque chose d'extrêmement populaire là-bas, une histoire qui s'appelle Hadachigahara, en fait, qui est liée à une situation géographique du Japon. Et en gros, toute la première partie de l'histoire est quelque chose qui est de l'ordre un peu de l'opéra, je trouvais tout de suite un peu tragique. Et curieusement, c'est cette partie de l'histoire qui n'est pas représentée en théâtre no. C'est-à-dire que c'est une pièce très, très connue, très populaire dans le théâtre no, mais c'est toute la fin de l'histoire qui va être représentée. La première plutôt dans le kabuki, donc qui est autre chose. Et donc je me suis dit, ça serait vraiment intéressant de travailler sur la réalisation d'une forme un peu plus dramatique, justement, avec une chanteuse no, mais sans tomber justement dans l'exotisme. L'idée, c'est vraiment d'utiliser la chanteuse no comme si j'utilisais un hautbois, finalement, quelque chose comme ça. Je veux pas rentrer dans une espèce d'exotisme japonais. Et du coup, j'ai quand même envie de voir ce qu'on pourrait faire au niveau du livret. Donc, on va travailler à Tokyo avec une universitaire qui est spécialiste du théâtre no pour retrouver le texte initial, qui est un texte très ancien, essayer d'en créer un livret Voilà, et de créer un opéra de chambre avec une chanteuse no sur, sur ce qui n'est pas représenté dans le théâtre no de cette histoire.
Bon, bah, j'ai l'impression que vous avez déjà le fil, c'est bien parti.
Oui, malheureusement, il n'y a que ça pour l'instant.
Ah bah, il faut commencer quand même. Voilà. Alors, dans la présentation du Festival Musica à Bruxelles, son directeur Claude Ledoux a dit que vous étiez attentif au soubresaut de l'âme du son. Alors, cette âme, elle est où ? Dans le son.
Bonne question.
Ça, c'est à cause de Claude Ledoux, pour lui dire merci.
Oui, je vais le remercier de très prochainement. L'âme du son. C'est vrai que je vais vous parler de quelque chose qui m'intéresse beaucoup quand j'écris, c'est-à-dire que je ne suis pas de la manière dont on peut enseigner la composition, ou en tout cas depuis la seconde école de Vienne, on a tendance à générer séparément les différents paramètres. Donc je vais générer des hauteurs, je vais générer du rythme, de l'harmonie, du timbre, etc. Et moi, je travaille beaucoup sur l'élaboration d'objets. Donc, c'est-à-dire que je vais construire des objets qui vont être fixes. C'est-à-dire, je vais associer un timbre avec une petite orchestration, justement, en essayant de créer un objet qui puisse marquer l'auditeur, en tout cas au niveau de la mémoire. Et je pense que l'âme du son, c'est peut-être, en tout cas, c'est ma conception des choses, c'est peut-être justement, elle se traduit en tout cas dans ma musique par l'élaboration de ces objets qui vont être justement une recherche de quelque chose d'un peu singulier. En associant les choses et en ne tentant pas de les séparer pour créer du discours. Et essayer de révéler finalement les... Parce que je suis persuadé qu'une sonorité, intrinsèquement parlant, veut aller quelque part, exprime quelque chose, et j'ai envie peut-être de révéler ou d'aller peut-être à contre-courant de ce pourquoi on pourrait subodorer vers quoi il tend, en fait. L'âme du son, pour moi, c'est ça. C'est plutôt l'âme de l'objet musical, en fait.
Et l'émotion du son.
Oui.
Effectivement. Et d'ailleurs, vous n'avez pas abandonné la mélodie au magasin des accessoires dans votre objet musical. On l'a entendu là tout à l'heure.
Oui, alors là, c'est autre chose. Là, c'est ce que j'appelle les OEM. Donc, il y a un parallèle immédiat avec les OGM. C'est l'idée justement de travailler sur la musique du passé. Donc, j'ai une rencontre très marquante avec notamment la musique baroque française. Donc là, on attendait dans la pièce précédente, Églogue, où il y a beaucoup de citations de Rameau. Et l'idée, c'est justement d'essayer de m'approprier ce que je pourrais analyser comme étant des objets musicaux dans la musique du passé, le prélever, le modifier esthétiquement pour l'introduire dans mon langage. Donc c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec les OGM. Et donc pour le coup, il se trouve qu'on a une gamme une panoplie de modifications possibles. On peut modifier extrêmement les choses, donc jusqu'à ne plus reconnaître la source, mais on peut également laisser les choses filer, enfin en tout cas laisser le dessin, etc. Et donc c'est vrai que dans cette pièce, dans Églogue, il y a le référent mélodique qui est assez présent.
Une manière de ne pas rompre avec le passé et la mémoire.
Oui, ça Également, moi, je pense à ça également en situation de concert, c'est-à-dire que, bon, je vais peut-être me faire haïr de certains compositeurs, mais j'aime pas trop les concerts de création, finalement. Enfin, je m'aperçois qu'aller à un concert et avoir que des pièces créées, enfin, ou des pièces de musique contemporaine, c'est très important que ça existe, parce qu'il faut effectivement nourrir les choses, mais ça a l'inconvénient de réduire le public, de le restreindre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, notamment dans la programmation, d'avoir une pièce programmée avec une œuvre classique, de réfléchir sur le lien qui peut exister entre les deux. Et je pense que ça a peut-être plus de poids également, parce qu'on insère véritablement la nouvelle pièce déjà dans le répertoire. En tout cas, on a cette démarche-là.
L'histoire de la musique est un continuum.
Oui.
Un mot sur Grand Défilé, une œuvre récente que vous avez créée à l'automne dernier à l'Opéra de Lille, et que l'on va voir très prochainement au Théâtre de l'Oiseau-Mouche à Roubaix.
Oui, alors ça, c'est une... C'est un spectacle qui a été écrit donc avec Frédéric Tantelier, qui donc l'écrivain et le metteur en scène de ce spectacle. Grand Défilé, c'est une pièce pour un serpent, donc c'est un instrument de musique.
Ça, je peux dire que c'est très surprenant, le son.
Oui. Un instrument de musique français d'ailleurs, qui est né à Auxerre à la fin du XVIIe siècle. Une mezzo-soprano. et deux acteurs. Et en fait, ça fonctionne en diptyque, si vous voulez. Donc il y a deux couples, c'est lié aussi également à l'histoire. Il y a l'idée d'un chef de fanfare et d'une majorette. Donc ils vont être incarnés de deux manières différentes. Et on a voulu travailler avec Frédéric véritablement aussi sur cette idée de mémoire. On parlait de mémoire tout à l'heure avec le lien avec la musique du passé. Donc dans Grand Défilé, il y a beaucoup d'OEM aussi qui sont utilisés justement par rapport à ça.
Alors OEM, objet...
Objet esthétiquement modifié.
Esthétiquement modifié, voilà. C'est bien de le préciser.
Oui, tout à fait.
D'accord. Alors donc on vous retrouve en tout cas dès le 20 mars à Bruxelles, au festival Ars Musica.
Oui, il y a une petite pièce pour piano.
Pour Outrepage.
Oui.
Oui, oui, j'ai bien regardé le programme. D'accord. Et c'est Marie-Dominique Gilles qui sera au piano. Oui. Et puis donc on vous retrouvera donc aussi à Roubaix, à Paris, à Valois, à Milan et à Tokyo dans quelques mois.
Oui.
Aurélien Dumont, merci. Et on écoute, c'est la plage 3.
Oui, donc là c'est mon concerto pour alto qui a été créé à Paris au mois de novembre dernier. Donc qui s'appelle Flow en fioles en flow. Le premier mouvement qu'on va entendre là, c'est enfin le début, je suppose. Donc c'est Flow en fiole, et le deuxième mouvement qui sera peut-être présenté après, ça sera Fioles en flow.
Eh ben, on y va.
Voilà.